Et bien on va commencer cette rencontre, cette découverte ou redécouverte, parce que Yos est déjà venu à Épinal il y a quelques années, d'un auteur cubain. Alors c'est vrai que ça va aussi être quelque chose qu'on va évoquer évidemment dans cette rencontre, parce que là aussi il y a à la fois une forme d'exotisme, une forme de curiosité qui passe de ça. Et puis bah, j'imagine quand on parle aussi de Cuba, et en particulier en lien avec les livres, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent autour de la situation politique, sociale à Cuba aujourd'hui. On entend beaucoup de choses ces dernières semaines autour des changements, d'un adoucissement du régime. Et voilà, on va aussi évoquer ça. Mais je voulais qu'on commence d'abord par quelque chose, parce que moi, j'ai découvert en préparant cet entretien qu'il y avait un vrai mouvement de science-fiction à Cuba. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette situation de la science-fiction à Cuba?
Bueno, lo primero que debo decirte es que no somos muchos. O sea, en el mejor de los momentos, cuando nos reunimos todos y llevamos a las novias, llevamos a ser 20 o 25.
Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que nous, les écrivains de SF, on n'est pas finalement pas très nombreux, puisque quand on se réunit, y compris avec nos fiancés ou nos épouses, on est grosso modo une vingtaine.
Pero debo decirte que la mayor parte de ellos somos muy activos. Normalmente publicamos una o dos libros al año, incluidos recopilaciones. Publicamos en varias revistas, incluso que no son de ciencia ficción, y algunos, cuatro o cinco, estamos publicando con regularidad fuera de Cuba.
Mais en fait, en revanche, on peut dire qu'on est tous très actifs, puisqu'on publie tous au moins un à deux ouvrages par an, y compris des recueils de nouvelles, et que parmi nous, il y en a au moins quatre ou cinq qui publient également à l'étranger.
En esta revista, en Galaxy, apareció un artículo que yo hice que se titula justamente La flota boliviana parte de la conquista de los océanos, porque a muchos les resulta increíble. O sea, Cuba, ciencia ficción, es como pensar que Bolivia, que es un país sin mar, tenga una flota marítima. Pero en Cuba, justamente porque vivimos quizás como un pie en el pasado, nos preocupamos mucho del futuro.
Et donc en fait, bah, il y a une traduction d'un de mes articles qui est paru dans un numéro récent de Galaxy, qui traite donc de la science-fiction cubaine et qui s'intitule « La flotte bolivienne à la conquête des océans ». Et donc en fait, c'était un petit peu un jeu de mots parce que effectivement, parler de SF cubaine, c'est un peu comme parler des bateaux boliviens. Donc la Bolivie n'étant pas au bord de la mer.
C'est le seul pays d'Amérique du Sud qui a pas de côte. Hein.
Voilà. Et peut-être parce que nous, Cubains, on est un peuple finalement où il y a encore beaucoup de choses de vestiges du passé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est tourné vers le futur.
Comment se passe justement la relation avec le pouvoir cubain quand on est écrivain, et en particulier quand on est écrivain de science-fiction?
Sí, cómo se pasa la relación con el poder cubano cuando eres un escritor y particularmente un escritor de ciencia ficción. Tienes que hablar con el micrófono muy cerca de ti.
Yo creo que la relación del poder con los creadores siempre es difícil. O sea, el poder no quiere críticos, solamente quiere coristas que ensalcen lo bien que lo está haciendo. Y la mayor parte de los creadores no nos gusta cantar en coro.
Donc je crois en fait que la relation du pouvoir cubain avec les créateurs est très particulière, puisque le pouvoir cubain ne veut pas de critiques, il veut des gens qui encensent la grandeur de ce pays et de tout ce que fait le pouvoir. Et bien évidemment, les créateurs apprécient pas du tout cet état de fait.
Mais est-ce que la science-fiction bénéficie d'un statut particulier?
Bueno, debo decirte que a principios de la revolución, o sea, hasta el año 70, la ciencia ficción tenía un estatus privilegiado. Se consideraba que construyendo la sociedad nueva se necesitaba una nueva literatura que pudiera cantar la grandeza del futuro. Después, no fue así.
Et en fait, la science-fiction, au moment de la révolution cubaine, au début de la révolution cubaine, a eu une place privilégiée, puisque on était à ce moment-là en plein dans une espèce d'euphorie, on voulait reconstruire une société nouvelle, et donc pour construire une société nouvelle, il fallait une littérature nouvelle, et il fallait chercher autre chose, et la science-fiction a eu, à un moment donné, une place importante, et malheureusement, au fil du temps, les choses ont évolué, et à l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas.
Puedo decirte, de hecho, que durante los años 90, la ciencia ficción casi no se publicó en Cuba porque ya no se sabía a quién pertenecía el futuro, sino que incluso no se sabía a quién estaba perteneciendo el presente, pero desde luego no era el socialismo.
Et donc, en fait, dans les années 90, on n'a quasiment plus publié de science-fiction à Cuba parce que, quelque part, on ne savait plus à qui appartenait le futur. On savait encore moins à qui appartenait le présent et on savait déjà que quelque part il appartenait plus au socialisme.
Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vivez encore à Cuba, vous vivez à La Havane. On imagine, et moi personnellement, en tout cas, les auteurs cubains que je connaissais sont plus des auteurs de la diaspora, de ceux qui ont choisi l'exil. Vous, c'est pas le cas, mais pourtant vous avez vécu en Europe, je crois.
Bueno. Yo permanezco en Cuba por dos razones. La primera, que amo mi país y mis amigos. Y la segunda, que en la guerra entre el escritor y el poder, creo que si alguien debe irse del país, es el poder.
Donc moi, en fait, j'ai décidé de rester à Cuba pour deux raisons. D'abord, parce que j'aime mon pays. Et deuxième raison, parce que dans la guerre en fait qui est menée entre les écrivains et le pouvoir, je considère que si quelqu'un doit quitter Cuba, c'est le pouvoir, c'est pas l'écrivain.
Voilà, alors c'était pour planter un petit peu le décor effectivement et comprendre un peu le contexte dans lequel travaille Yos, mais ça va nous amener directement finalement au travail en lui-même, c'est-à-dire à la fois à Interférence et à Planète Allouée, qui sont les deux ouvrages, à part évidemment les nouvelles qui peuvent être publiées, qu'on trouve actuellement chez nous. On va commencer par Interférence. Interférence, c'est vraiment... est-ce que c'est d'abord un roman, en tout cas un ouvrage de science-fiction?
Bueno, digamos que es ciencia ficción de futuro cercano o ciencia ficción de lo que podría ser el presente si no fuera como es.
Oui, donc en fait, c'est une espèce de science-fiction d'un futur extrêmement proche. C'est une science-fiction du qu'est-ce que serait le présent si c'était pas le présent actuel.
Algunos amigos en Cuba me dicen, pero esto no es ciencia ficción. Estas cosas estoy seguro de que están pasando en Cuba. Y mi respuesta es siempre, sí, yo también, pero no dejan que uno las diga. Por eso yo especulo literariamente acerca de ellas.
Et donc certains de mes amis m'ont dit, mais ça c'est pas de la science-fiction, finalement c'est des choses qui se passent à l'heure actuelle. Tu parles en fait de la situation actuelle à Cuba, et moi j'ai dit oui, mais j'ai voulu parler de la situation actuelle à Cuba avec quelques éléments autour desquels je brode, des éléments un peu étranges et un peu science-fictifs.
Alors on va expliquer pour que ceux qui n'auraient pas lu encore Yos comprennent bien. Si on dit que c'est pas forcément de la science-fiction, c'est d'abord parce que on n'a pas beaucoup besoin de lire entre les lignes, on voit clairement qui est qui. On a un petit pays, on a un grand pays qui est son voisin, et on sent qu'entre les deux, ça se passe pas très bien.
Et le petit pays, remarque notable, est gouverné par un dictateur affable, entre parenthèses, aux riches éclairés de son peuple.
Yo comienzo una de las historias diciendo que en el gran país gobernaban presidentes elegidos por los que tenían más dinero y era una democracia. Y en el pequeño país gobernaba desde hacía medio siglo un dictador elegido todos los años porque era el único candidato y, por supuesto, también era una democracia.
Y donc, en fait, j'explique que dans le grand pays, le président qui gouverne est élu par le peuple, mais en fait par les gens qui ont de l'argent, et on appelle ça une démocratie. Dans le petit pays, c'est un dictateur qui est élu par le peuple. Mais comme il est seul candidat, finalement, c'est aussi une démocratie.
On retrouve ça dans les médias aussi, dans la liberté d'expression, puisque on a toutes les chaînes qu'on veut dans le grand pays. Et puis dans le petit pays, ça se passe comment pour la télévision?
Si, en la télévision, en el gran país, tienes muchos canales de televisión, pero en el pequeño país es diferente.
Sí, realmente el hecho de tener muchas opciones de canales de televisión significa que uno tiene muchas elecciones a la hora de desinformarse. En el país pequeño solo hay dos opciones para desinformarse. Creo que en realidad ambas cumplen con el concepto de lo que es una televisión.
Et donc en fait dans le grand pays, on a une multiplicité de chaînes et également donc pour s'informer, on a de multiples possibilités. À Cuba, il y a deux chaînes. Donc ça limite un petit peu les possibilités. Finalement, c'est deux conceptions différentes de la télévision.
Et de la liberté d'expression.
Et de la liberté d'expression.
Est-ce qu'on peut dire un mot de la méthode cinétique?
Ah, el método cinético.
Bueno, esto es un recuerdo. Mi padre era experto en televisión. Pero él, cuando tenía que arreglar un televisor ruso, lo primero que hacía era golpearlo.
Donc, en fait...
Sí, porque decía que los artefactos rusos... estaban diseñados por ingenieros a los que Stalin había golpeado mucho y que, por lo tanto, lo que ellos habían construido también estaba acostumbrado a los golpes. Y funcionaba.
Donc, en fait, mon père était réparateur de télé, donc spécialiste en télévision. Et en fait, je l'ai toujours entendu dire, lorsqu'il devait réparer donc, des télévisions russes qui ne fonctionnaient pas, donc la première chose qu'il faisait, c'était mettre des grands coups dessus. Et il m'a toujours expliqué que bah, comme c'était des téléviseurs russes qui avaient été fabriqués par des ouvriers et des ingénieurs russes qui étaient habitués à ce qu'on leur tape dessus, eh bien les appareils russes étaient habitués à ce qu'on leur tape dessus. Et ça fonctionnait tout le temps.
Et donc, c'est ça la méthode cinétique. C'est cette méthode cinétique qui est le point de départ d'interférence, puisque justement c'est en utilisant cette méthode cinétique et donc en tapant sur son antenne de télévision et sur son poste que M. Pérez va provoquer cette interférence.
Creo que de alguna manera lo que ocurre es una metáfora de que cuando se golpea demasiado algo, hay un momento en que se desplaza más allá de todo lo previsible.
Oui, donc en fait, c'était une espèce de métaphore pour montrer que bah quand on tape un petit peu trop fort sur quelque chose, bah il peut se déplacer plus loin que ce qu'on aurait prévu.
Et donc ce plus loin, ça va être le futur puisque finalement cette télévision va se mettre à diffuser des événements qui ne se sont pas encore produits.
Bueno, esto puedo decirte que no es del todo ciencia ficción. Todavía hoy los noticieros de televisión en Cuba terminan con unas palabras muy significativas. Y ahora, un resumen de los acontecimientos que serán noticia mañana.
Alors en fait, c'est de la science-fiction sans en être, puisqu'il y a quelque chose qui est très symptomatique. Les présentateurs des informations à Cuba terminent toujours par la même phrase. Et maintenant, voici le résumé des informations que vous aurez demain.
Mi pensamiento fue simple. Esto de los acontecimientos que serán noticia mañana no es más que la expresión de un país donde supuestamente todo está tan programado que no puede haber ninguna sorpresa, ya se sabe lo que va a ocurrir mañana. Mi pensamiento fue, ¿qué tal si ocurriera realmente así? Si realmente se pudiera saber lo que va a pasar mañana.
Et donc en fait ça montre que on est dans un pays où les choses sont tellement programmées que effectivement on sait ce que seront les nouvelles de demain. Et donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se produirait si finalement à un moment donné il arrivait quelque chose de non programmé et si on allait au-delà et si réellement on pouvait savoir ce qui va se passer demain.
Et d'ailleurs si les Pérez n'avaient pas discuté des programmes qu'ils ont regardés à ce moment-là avec leurs amis, leurs proches, ils se seraient sans doute rendu compte de rien.
Sí, que si la familia Pérez no había hablado a sus vecinos de que habían visto, de lo que habían visto en la televisión, quizás no se hubieran enterado de lo que había pasado con la interferencia.
Bueno, estos cuentos fueron escritos a finales de los años 90, cuando en Cuba todavía no había DVD, cuando la única opción de programación era la oficial de televisión. Cuando todos los cubanos veían los mismos dos canales, no había opciones y probablemente el hecho de que alguien viera algo que no estuviera en los canales estaba prohibido. Todavía hoy en Cuba está prohibido tener antenas parabólicas que capten otros canales que no sean los oficiales.
Alors en fait cette nouvelle a été écrite dans les années 90, où à l'époque, il n'y avait pas encore le DVD à Cuba, et d'où, où finalement, tous les Cubains regardaient les deux mêmes chaînes de télévision, et il était absolument interdit de regarder autre chose. À l'heure actuelle, à Cuba, il est toujours interdit de posséder, enfin, de monter une parabole sur son téléviseur. Et donc, effectivement, toute personne qui aurait vu quelque chose de différent, aurait automatiquement été repérée parce que c'est interdit et c'est impossible.
Du coup, cette antenne qui a été modifiée par la méthode cinétique va devenir une arme.
Creo que no puede haber un arma más terrible para un gobierno totalitario que el hecho de que sus ciudadanos conozcan el futuro. Bueno, solo puede haber una peor, que es que conozcan el pasado. En Cuba decimos que Cuba es el único país donde el pasado es incierto, porque constantemente se está reescribiendo y los que ayer eran héroes hoy son traidores a la revolución.
Et donc en fait, il est vrai que à Cuba finalement, enfin, quelle arme formidable pour un gouvernement que de disposer d'un outil qui permettent de voir le futur. Mais alors à Cuba, il y aurait un outil encore pire, c'est un outil qui permettrait de voir le passé, parce que à Cuba, le passé, c'est toujours incertain, parce qu'il est toujours en perpétuelle réécriture, et toute personne qui irait à l'encontre du discours officiel sur le passé serait absolument un traître à la révolution.
Alors moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans l'interférence, c'est qu'il y a une formidable description de la société cubaine, sans concession, vraiment une vraie critique de ce qu'est le pouvoir cubain, avec toutes ces absurdités, tous ces délires même par moment, parce que ça prend des proportions absolument extraordinaires. En même temps, il y a aussi une critique du reste du monde, et des États-Unis en particulier. Ça ne s'arrête pas simplement à quelque chose de très manichéen, hein. C'est vraiment une critique très bien orchestrée. Et puis c'est très drôle.
Yo creo que, a pesar de que yo nunca he estado en los Estados Unidos de los que yo me burlo, por ejemplo, en este capítulo que se llama Las Piezas, no son los Estados Unidos gloriosos que marchan al son del himno con la bandera por detrás, sino los Estados Unidos ridículos. Creo que todo país tiene un lado ridículo y es muy fácil conocer el lado ridículo simplemente mirando en el espejo el lado glorioso.
Alors en fait, les États-Unis, je suis jamais allée aux États-Unis, mais en tout cas, les États-Unis que je décris, c'est bien évidemment pas les États-Unis glorieux avec la bannière étoilée, etc. Moi, je décris en fait une facette des États-Unis, le côté un peu ridicule du pays. De toute façon, tout pays a derrière sa belle bannière un côté ridicule, et c'est ce qui m'a intéressé d'aller chercher, c'est ce côté ridicule des États-Unis dans Interférence.
Alors on va le voir avec le premier extrait que va nous lire Sylvain, parce que on va parler de l'autre, de la seconde nouvelle qui s'appelle Les Cheminées, où là on a justement la troisième, oui, on a une guéguerre entre le petit et le grand pays autour d'une cheminée qui fait de l'ombre à l'autre ou pas, et chacun va avoir sa cheminée la plus haute.
C'est le début que tu lis ou
c'est la fin. Ça va être la fin, tout simplement parce que faut expliquer. Donc au bout d'un moment, les États-Unis, faute de moyens, et c'est dire à quel point la guerre va aller loin, sont obligés de s'arrêter de construire leur tour et ne comprennent pas comment, du côté du petit pays, bah, ça continue à monter. Alors ils vont envoyer des troupes, et là on revient peut-être au côté un peu ridicule.
Alors pour quand même juste aussi situer vraiment le début et bien comprendre, en fait, donc les cheminées, le point de départ, c'est le gentil dictateur affable, origine éclairée de son peuple, qui est en train de faire un discours très court de 8 heures, avec le public qui écoute sous un cagnard d'enfer, et qui s'arrête soudain parce qu'il y a quelques pélos là-bas au fond qui sont à l'ombre. Mon Dieu, d'où vient cette ombre ? Alors, il est en train d'inaugurer une usine de fabrication de boulons à trois arêtes, qui est la production phare du pays et qui est mondialement connue, bien sûr. Donc, et il y a de l'ombre qui vient derrière le rideau d'arbres. Donc, on se précipite, le dictateur se précipite pour voir. Et de l'autre côté des arbres, que découvre-t-il ? Donc, derrière les arbres, il y a la frontière avec le grand pays, une autre usine de fabrication de boulons à trois arêtes. Et en fer et damnation, la cheminée mesure 2 mètres de plus que la sienne. Donc, évidemment, qu'à cela ne tienne, on appelle des ingénieurs immédiatement, rehaussez-moi ma cheminée. 15 jours après, il est content, sa cheminée fait 3 mètres de plus que l'autre. Mais un mois après, celle d'en face fait 10 mètres de plus. Et là, on arrive dans une escalade totalement absurde où chacun rehausse sa cheminée au fur et à mesure et ça prend des proportions absolument démentielles.
À tel point donc que le grand pays décide d'envahir le petit pour aller voir comment ils font.
La théorie que le dictateur, définitivement fou, avait caché à tout son pays pour le transformer en une forteresse servant de support à la nouvelle arme, encore inconnue, de destruction massive qu'était réellement la cheminée de la dignité, surgit et gagna en quelques heures des adeptes parmi les militaires du grand pays. Si une telle chose était vérifiée, elle était évidemment très dangereuse. Et les militaires de tous les endroits et de tous les temps ont une réaction unique face au danger ou sa simple présomption. La même nuit commença l'opération Ramonage. 4 divisions de blindés du grand pays, avec un appui d'artillerie et une abondante infanterie, traversèrent la frontière fortifiée du petit pays, prêts à tout pour protéger leur pays et le monde de la menace létale d'un dictateur manipulant l'arme nucléaire, ou pire. Ils ne rencontrèrent d'autre résistance que le feu de réponse automatique des armes robotiques rapidement maîtrisées. Derrière la frontière, le petit pays était effectivement désert. Ni les plus soigneuses explorations au géophone, une sorte de sonar souterrain sophistiqué, ni les frénétiques excavations au hasard ne montrèrent la moindre trace de fortifications massives enterrées. Ce qui, loin de tranquilliser les généraux à la tête de l'opération Ramonage, les plongea dans une panique paranoïaque telle qu'en un délai record, ils parvinrent à faire recalibrer 2 des satellites militaires d'observation du grand pays. Être riche permet le luxe, même dans l'espionnage, pour scruter jusqu'à la moindre molécule du territoire curieusement désert du petit pays et de sa cyclopéenne cheminée de la dignité. Les moyens sophistiqués d'observation spatiale confirmèrent définitivement qu'il n'y avait rien de caché sous la surface déserte du petit pays. Et quant à la cheminée, les images transmises furent si incroyables que, malgré le coût élevé, le gouvernement du grand pays envoya dans l'espace, la même semaine, un équipage d'astronautes pour vérifier in situ. Le résultat de cette inspection déclencha le démantèlement définitif de la cheminée de la liberté. Et le petit pays devint, après son occupation militaire, une province du grand pays, vieux rêve de ses gouvernants, qui, devant les protestations du monde entier et de toutes ses organisations face à cette annexion flagrante, se contentèrent de sourire et proposèrent de retransmettre les images captées par leurs astronautes gratuitement et mondialement. Ainsi, la planète entière abasourdie eut l'occasion de voir, après une acrobatique manœuvre d'accouplement, les hommes de la navette Nexus cheminer sur les derniers kilomètres de la cheminée de la dignité grâce aux semelles adhésives de leurs scaphandres. Et chacun fut étonné, comme eux, de constater que l'ultime tronçon de la super cheminée n'était pas fait de polymère d'un nouveau type, mais d'un aggloméré hétérogène de morceaux de bois, de briques ordinaires, d'arbres, d'automobiles qui, d'une façon inimaginable, défiant toutes les lois de la physique, tenaient debout. Le monde fut surpris et horrifié de découvrir que, plus haut, ce n'étaient plus des morceaux de maisons et de meubles assemblés de manière chaotique qui formaient la cheminée, mais un amas de corps, une chaîne d'êtres humains, étroitement serrés, les muscles en tension pour atteindre la longueur maximale, l'extension ultime de leur propre anatomie. Un peuple congelé par le froid terrible de l'espace, mais souriant, fusionné par le froid terrible de souriant, fusionné pour toujours par son projet, son orgueil, sa cheminée. Et au sommet de cette terrible et impossible obélisque dédiée à l'abnégation, au sacrifice et à l'entêtement infini du peuple du petit pays, le dernier de tous, le seul ayant les bras libres, l'affable dictateur. Toujours à la tête de sa nation confiante, le geste orgueilleux, les mains tendues vers l'infini, comme s'il voulait aller plus loin, changer en statue pour l'éternité, la bouche prononçant un orgueilleux « Excelsior », souriant et triomphant.
On a l'impression sur cette fin d'un vieux film de propagande soviétique où on imaginerait Lénine montrant, voilà, exactement. C'est incroyable d'imaginer que vous puissiez écrire ça sans que on vienne ensuite vous demander des comptes.
C'est incroyable, imaginez que vous puissiez
gobierno cubano venía a pedirte algo, ponerte en...
Bueno, debo decir que la única vez que he estado detenido por los órganos de seguridad del gobierno cubano ha sido justamente por este cuento.
Alors, je dois dire qu'en fait, la seule fois où j'ai été incarcéré par les services de sécurité cubains, c'est justement après avoir écrit et publié ce texte.
Pero también debo aclarar que las reglas en Cuba son bastante singulares. Desde que en 1997 tenemos un nuevo ministro de Cultura, nuevo, que como todas las cosas nuevas en Cuba ya tiene 15 años. Las reglas son distintas. Podemos escribir lo que queramos y el gobierno nos publicará lo que ellos quieran. Estos cuentos no están publicados en Cuba.
Alors en fait, il y a eu un changement en 97 avec un nouveau ministère de la Culture. Et là, il y a une règle assez simple qui a été établie. C'est-à-dire que finalement, les auteurs cubains peuvent écrire à peu près ce qu'ils veulent, mais le gouvernement choisit de publier ce qu'il veut. Donc, comme ça, c'est une bonne façon de contrôler ce qui s'écrit.
Et donc, cette nouvelle-là n'a pas été publiée à Cuba.
Et donc, cette nouvelle n'a pas été publiée à Cuba.
En lisant le livre, il faut savoir qu'il y a, pour vous découvrir un petit peu mieux, une interview qu'a réalisée Sylvie, et puis d'autres explications à l'intérieur. On parle en particulier de vos influences. Et moi, j'étais très surpris parce qu'il y a deux noms qui me sont venus à l'esprit en lisant Interférence et que vous ne citez pas. Le premier, c'est Voltaire. Parce que pour moi, c'est pas un livre de science-fiction. Pour moi, ce sont des contes philosophiques. Et le deuxième, c'est Kafka. Parce que la deuxième nouvelle, c'est une variation sur la métamorphose.
Bueno, debo decirte que eres la primera persona que se da cuenta de la influencia que tiene Micromegas de Voltaire en esta concepción. Y lo segundo que debo decir, los cubanos siempre decimos que Kafka en Cuba hubiera sido un periodista, un escritor costumbrista. En Cuba el hecho de que un hombre amanezca convertido en cucaracha no es noticia. Todos los días amanecen cucarachas convertidas en ministros.
Donc en fait, bah, tu es la première personne à me dire que finalement, à remarquer que, effectivement, dans ce texte, il y a des influences de Micromégas, de Voltaire. Et puis Kafka, à Cuba, Kafka, ça serait un journaliste, ça serait, et qui pourrait écrire tous les jours que finalement, un coquillage s'est transformé, enfin, que des gens se sont transformés en coquillage.
En cafard.
Et puis on sait que de toute façon, régulièrement, à Cuba, les cafards se transforment en ministres. Donc,
Alors on le voit, c'est Interférence, c'est un livre vraiment, encore une fois, je le redis, vraiment très drôle. C'est moins le cas, je trouve, de Planète allouée. Et je l'ai qu'on s'intéresse aussi à ce livre-là parce que je crois que c'est une vraie description de la société cubaine au travers de ses archétypes. Est-ce que c'était ce que vous recherchiez justement à faire découvrir à l'extérieur du pays, ou peut-être même à l'intérieur d'ailleurs, ce qu'est la société cubaine, en tout cas comment elle se distingue aujourd'hui par vraiment des archétypes?
Bueno, los arquetipos son siempre un peligro, pero hay que decir que en la sociedad cubana existen situaciones en las que los arquetipos de Planeta Lue son canónicos.
Oui, les archétypes, ça peut toujours être un danger, mais en tout cas, dans la société cubaine, il existe des archétypes tels qu'ils sont décrits dans Planète allouée qui sont carrément canoniques.
Muchos que creen que la crítica es demasiado dura me dicen, pero todos los cubanos no son así. Digo, pero también existen esos cubanos, y son muchos. No es como dicen nuestros periódicos que todo el pueblo está dispuesto a sacrificarse. No todo el pueblo est capable réellement se subiría en una chimenea para seguir a su líder.
Alors on m'a déjà dit mais franchement tous les Cubains sont pas comme ça, et à chaque fois j'ai répondu des Cubains comme ça il y en a et moi j'en connais beaucoup, et en fait à mon avis tous les Cubains sont pas prêts à se sacrifier pour leur pays, et je pense qu'il y aurait finalement très peu de Cubains qui seraient capables de monter en haut de la cheminée pour finalement se sacrifier à la gloire du petit pays pour montrer que, enfin pour l'orgueil du petit pays.
Là, on retrouve un contexte qui, là, pour le coup, est vraiment un contexte de science-fiction, même si on garde encore une fois le côté petit pays d'un côté, grand pays de l'autre, ou en tout cas univers de l'autre et petite planète, mais on est vraiment avec l'intervention d'extraterrestres, de personnages venus d'univers différents qui symbolisent l'extérieur. Là, on est vraiment dans un contexte de science-fiction, par contre.
Bueno, debo decirte que para los cubanos que no pueden viajar cuando quieren, que son la mayoría de mis compatriotas, antes de los años 90, los turistas extranjeros eran como los extraterrestres. Todos hablaban de ellos, pero muy pocos los habían visto.
Donc, il faut dire que finalement, à Cuba, où finalement la majeure partie des gens ne peuvent pas sortir du pays et ne sont jamais sortis du pays, avant les années 90, un touriste cubain, c'était un peu comme un extraterrestre. C'est-à-dire que on savait qu'ils étaient venus, mais il y avait très peu de gens qui les avaient vus.
Et justement, là, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette société cubaine vivre avec cette manne du tourisme.
Bueno, realmente, hoy más que nunca, la sociedad cubana vive del turismo. Incluso hemos renunciado a lo que era nuestro principal renglón productivo, que era la producción de azúcar de caña. Y obviamente el turismo a cambiado toda nuestra sociedad.
Donc effectivement aujourd'hui plus que jamais Cuba vit du tourisme puisque on ne peut plus compter sur ce qui était autrefois une ressource à Cuba, c'est-à-dire la production du sucre de canne, et Cuba a besoin vraiment du tourisme et de l'argent du tourisme pour survivre.
Avec ce paradoxe que tous les extraterrestres veulent venir à Cuba passer des vacances. Ou en tout cas sur cette planète, pardon, oula, je fais un lapsus.
Sur la Terre.
Voilà, sur cette planète. Et tous les habitants de la planète, eux, ne rêvent que d'une chose, c'est de la quitter.
Si, hay un paradoja, sí. Que todos los turistas xenoides quieren venir a vacaciones en la Tierra, y todos los de la Tierra quieren dejar el planeta para irse a territorios xenoides.
Bueno, esta paradoja es el equivalente de la paradoja real de Cuba. A Cuba todos quieren, todos los turistas europeos y norteamericanos quieren ir. Dicen salsa, puros, ron, mulatas. Y en cambio los cubanos, muchos cubanos, no todos, ansían irse de Cuba y dicen televisión, DVD, auto, internet. Son es una expresión de que cada uno desea lo que no tiene y cree que la vida es mejor en otra parte, que el césped del vecino es más verde siempre.
Et en fait, c'est vrai que ce qui est décrit finalement dans Planète Alouée, c'est un exact reflet de la société cubaine et puis du monde actuel où il y a énormément de touristes qui veulent aller à Cuba parce que Cuba, c'est les belles plages, la salsa, le soleil, le rhum, les belles filles. Et pour les Cubains, finalement, tout ce qui est en dehors de Cuba, c'est la télévision, Internet, les DVD, la liberté. Et il semble que finalement, on est toujours devant ce modèle un petit peu éternel de on croit toujours que ce qui est ailleurs est mieux que ce qu'on a chez nous et on rêve toujours de ce qu'on n'a pas.
Et les personnages que vous mettez en scène, donc ces archétypes de la prostituée, de l'artiste, du sportif, du policier et les autres, tous, ils sont finalement dans cet état intermédiaire finalement qui est de peut-être pas pouvoir partir, mais d'améliorer un ordinaire, de progresser socialement dans une société qui finalement est totalement figée en fait.
Bueno, estos personajes son parte de lo que en Cuba se puede considerar casi una picaresca, casi como la del siglo de oro español, todo un submundo que comenzó a vivir del turismo y a tratar de arrancar unas migajas del flujo de dinero que llevaban los turistas que supuestamente solo pertenecía al Estado, que lo tomaba y lo administraba.
Et en fait, tous ces personnages, c'est un petit peu comme une espèce de fresque picaresque, comme un peu l'Espagne au siècle d'or, où les Espagnols allaient chercher l'or de l'Amérique. Ces personnages, en fait, il y a cette manne du tourisme qui arrive et ils essaient d'en récupérer des miettes pour essayer d'améliorer leur vie et de profiter justement eux aussi du siècle d'or parce que les gouvernements sont à la solde finalement des extraterrestres et ils contrôlent tout. Eux n'ont pas de contrôle, mais ils essaient de récupérer des miettes.
Alors ça va loin parce que ça va pour cette prostituée qui est prête finalement à s'offrir au plus offrant, justement, à celui qui lui donnera peut-être le plus d'argent ou peut-être le plus d'espérance de quitter le pays. Moi, je voulais que vous nous racontiez ce qu'est prêt, lui, à faire l'artiste pour se sortir de là et pour obtenir un statut meilleur et finalement aussi un confort matériel. Parce que ce qu'il fait, c'est effrayant.
Creo que una de las cosas por la que esta novela es tan amarga porque le muestra a los cubanos algo que a menudo quieren olvidar, que todo en la vida tiene un precio, que conquistar el paraíso a menudo significa renunciar a ser lo que eres, que cuando llegas al paraíso ya no eres el que soñó vivir en el lugar mejor.
Et en fait, il y a une certaine forme d'amertume effectivement dans ce roman parce que finalement ça montre aux Cubains que essayer d'atteindre le paradis, ça a un prix. Et que quand on a payé le prix, on n'est plus tout à fait celui qu'on était auparavant. Et que finalement, est-ce qu'on va être heureux dans ce paradis qu'on a gagné si on n'est plus soi-même ?
Parce que cet artiste, il va jusqu'à mourir sur scène et puis ensuite ressusciter pour remourir le lendemain, voire quelquefois plusieurs fois par jour en fonction de la demande. Y morir de manera así violenta, quand même.
Es obviamente una metáfora también de lo que significa para muchos el proceso de la creación, que es morir para tu obra, olvidarte como persona para que tu obra esté ahí. Pero creo que varios de los personajes, el artista, la prostituta, el científico, el deportista, están dispuestos a renunciar a lo que para otros es lo más valioso que ellos tienen con tal de obtener eso que sueñan.
Cet artiste, oui, il est disposé en fait à mourir, mais c'est une métaphore en fait sur le travail de l'artiste, puisque l'artiste, il meurt quelque part en allant vers sa création, il est prêt à mourir pour sa création, mais finalement tous ces personnages, que ce soit la prostituée, l'artiste, le scientifique, le sportif, ils vont tous renoncer à une part d'eux-mêmes, mourir un peu à eux-mêmes pour essayer de gagner cette espèce de place au paradis.
Alors on va, pardon.
Yo me he encontrado en distintos países del mundo viajando cubanas de 20 años que se han casado con europeos de 70 que son infelices. Me he encontrado deportistas que eran conocidos por todo el pueblo en Cuba, que ahora son entrenadores de un equipo olvidado de una pequeña ciudad. Me he encontrado científicos que eran de primer nivel en Cuba, que ahora trabajan en una empresa farmacéutica olvidada. Me he encontrado a la gente que ha llegado a su sueño y se han dado cuenta que el sueño no los estaba esperando.
Et en fait, j'ai rencontré des filles de 20 ans qui vivent à l'étranger et qui ont épousé des hommes de 70 ans pour quitter Cuba et qui sont malheureuses. J'ai rencontré des sportifs qui étaient des sportifs de haut niveau à Cuba, qui sont maintenant des entraîneurs dans des clubs de seconde zone, dans des toutes petites villes. J'ai rencontré des scientifiques qui étaient des scientifiques de premier ordre à Cuba et qui se retrouvent finalement à jouer les laborantins dans des toutes petites entreprises pharmaceutiques. Et finalement, tous ces gens-là, ils sont malheureux parce qu'ils se sont rendus compte que maintenant qu'ils sont dans le rêve, c'était pas du tout le rêve qu'ils attendaient. Ils s'attendaient pas à ça. Et le rêve, finalement, quelque part, les a un peu trompés.
Alors, on va écouter justement le début du chapitre sur le sportif. Qu'est-ce qu'on peut dire pour planter un peu le décor, Sylvie, sur...
Alors, pour planter le décor, donc, le Voxel, c'est un jeu intergalactique qui est pratiqué par l'ensemble des races xénoïdes. Donc, les xénoïdes, c'est les extraterrestres en général, puisqu'après, il y aura des races différentes d'extraterrestres. Et donc, ce jeu, il y a un championnat intergalactique avec des équipes. Et cette année, la Terre arrive en finale du championnat intergalactique de Voxel, ce qui n'est jamais arrivé ou qui est arrivé il y a très longtemps. Donc évidemment, Yos va planter le décor et va nous faire vivre le match. Et là, l'enjeu est fort parce que pour une fois, les terriens qui ont été asservis par les xénoïdes, les terriens qui sont exploités, qui n'ont que des miettes pour vivre, ils vont, s'ils gagnent, pouvoir lever la tête et pouvoir être fiers. Et donc, on a tout l'enjeu de cette fierté terrienne dans ce match qui est décrit minute par minute par Yos.
Dans une discipline qui est d'une violence inouïe.
Et effectivement, parce que c'est un jeu où finalement, d'abord, il nous décrit des règles du jeu, c'est ça qui est impressionnant. On en a l'impression, enfin moi quand j'ai traduit ça, j'ai l'impression que j'étais commentateur sportif et c'était très amusant.
On a l'impression d'être dans le stade.
On est dans le stade, on est dans le stade complètement et donc il y a des règles du jeu très particulières puisque ça se joue dans une espèce de petit cube fermé, dans un état d'apesanteur et où le Vox c'est en fait une espèce de petite boule d'énergie qu'il faut essayer d'attraper mais on ne peut pas l'attraper parce que si on essaie de la contrôler elle part dans tous les sens. Alors il y a un certain nombre de rebonds à avoir, enfin bon bref. Et donc, il y a des équipes de toutes races possibles. Alors, les terriens, eux, sont entre eux. Et en face d'eux, ils ont notamment donc des races avec des trucs qui pèsent 300 kilos et qui foncent dans le tas. C'est carapacé. Enfin, c'est absolument terrible.
Et si vous avez aimé le Quidditch, hein, vous allez adorer le Voxel.
Ah oui, absolument.
Nous sommes l'équipe championne, la meilleure de la Terre. Les défenseurs de l'honneur humain sur les terrains de sport. Les gens le savent. Ils ont confiance en nous. Leurs acclamations montent jusqu'au fuselage de notre aérobus lorsqu'ils nous voient passer là-haut. Notre véhicule aux couleurs terriennes descend à vitesse maximale pour se glisser dans l'immense avenue menant au stade, à quelques mètres à peine au-dessus de la populace excitée. Ils nous adorent. Nous sommes leurs idoles. Et si nous gagnons aujourd'hui, nous le serons encore davantage. Nous deviendrons presque leurs dieux. Quelle foule ! Ce pilote va nous tuer ! Grogne Gopal, notre entraîneur, en regardant vers le bas par un hublot. Ses entrées théâtrales, avant chaque partie, le rendent toujours nerveux. Mais le reste de l'équipe et moi, nous les adorons. C'est une belle tradition. Et que deviendrait la Terre si nous renoncions aussi à ces traditions? Notre pilote est habitué et conduit avec adresse son aérobus au-dessus de la mer humaine. Il ne regarde même pas vers le bas. Moi, oui. La vue de milliers de visages avides d'espoir, de milliers de mains qui me saluent du V de la victoire, me galvanisent avant chaque match. Aujourd'hui, j'en ai besoin plus que jamais. Je vais jouer la partie de Vox la plus difficile de ma vie. Mon tremplin vers la gloire si je me débrouille bien, ou mon éjection vers l'oubli et le néant si j'échoue. Je vais foncer et donner le tout pour le tout. Le reste de l'équipe connaît également l'importance de ce jour. Chacun l'appréhende à sa façon. Ils se concentrent tous sur une seule idée. Gagner. Aucun ne veut penser à la honte de la défaite, à la fin de nos carrières si plus aucune équipe de Vox ne veut nous engager. Rien que d'y songer, j'ai peur d'attirer le mauvais sort. Mais non, la victoire sera nôtre. Il le faut. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs Voxleurs de la Terre. Les meilleurs depuis bien longtemps. Nous sommes l'équipe championne et c'est notre année. Jamais auparavant, une équipe de Vox n'a réuni 6 joueurs humains. Mvamba, grand et mince comme un joueur de basketball, est agenouillé devant un autel pliant. Dans son dialecte bantou sonore, il prie un fétiche tribal taillé dans un bois aussi sombre que sa peau. Il semble que, parfois, cela aide de croire en un petit dieu personnel et intime qui veille sur nous, de prier un esprit protecteur ou un ange gardien. Il y a moins de 2 ans, Mvamba conduisait un simple aérobus brinque-ballant à Sydney. Il était l'un de ces nombreux Africains apatrides depuis que les xénoïdes avaient volatilisé leur continent entier au moment du contact. Un chasseur de talent de l'équipe locale, les mains noires, l'avait vu jeter une pierre contre un voleur pour se défendre et avait décidé de lui faire passer un test. Sa carrière avait alors été fulgurante. Avant-centre des mains noires, attaquant des cavaliers de Melbourne. Et à présent, la grande opportunité. Celle que seul un joueur sur 10 000 peut décrocher. Défenseur des couleurs de la terre. C'est exceptionnel pour un petit nouveau comme lui. Une chance qu'il doit probablement à son fétiche. Un homme observe la prière de Mbamba, l'air sarcastique. Arno Korvaldsen, le défenseur danois. La brute blonde, un athée convaincu. Le plus corpulent de l'équipe avec ses 187 kilos et ses 2,05 m. Le plus expérimenté également. Il jouait déjà avec les Berkskers de Copenhague lorsque j'en étais encore à voler des cartes de crédit dans l'anneau extérieur de l'astroport de la Havane. Cela fait un moment que les journalistes sportifs spéculent sur la date de sa retraite. Mais le grand Danois continue de jouer et il est à présent le meilleur défenseur de la planète, bien que le sort de la Terre lui importe peu. Arno est un individu pragmatique, un mercenaire qui réagit uniquement à l'odeur de l'argent. Gopal n'est parvenu à lui faire intégrer l'équipe qu'en lui promettant une somme énorme que nous gagnions ou que nous perdions. Avec de pareilles motivations, on pourrait douter de la qualité de jeu de n'importe quel gars, mais la brute blonde est un homme de parole. Il se donnera à fond, comme toujours. Yukio Kawabata, lui, est là sans être là. Bien que son corps soit présent, la transe bouddhique dans laquelle il s'est plongé depuis presque une heure a probablement fait régresser son esprit à l'aide impériale de ses ancêtres samouraïs. D'après sa façon de jouer, il est évident que pour lui, le vox n'est pas qu'un équivalent moderne du bushido. Yukio est un idéaliste et sa richesse lui permet de s'offrir ce luxe. Sa famille détenant un bon paquet d'actions de l'agence touristique planétaire. Il se fiche de son salaire ou même de savoir s'il gagne ou s'il perd. Jouer bien, mieux que personne, demeure son obsession. Et il est un centre droit formidable, avec des réflexes et une vitesse de course que de nombreux professionnels de la Ligue aimeraient posséder. La Ligue. Pour tout Voxler, la Ligue représente la Mecque et le Valhalla réunis. C'est au sein de la Ligue que s'affrontent les équipes de toutes les espèces. Les insectoïdes gordiens, blindés et très agiles face aux polypes d'Aldébaran, lents à se mouvoir sur leur unique pied, large et musculeux, mais aux centaines de tentacules véloces pour compenser. Les Colossiens, rougeâtres et cuirassés contre les Sétiens, sveltes et ultra-rapides. La Ligue est synonyme de salaires astronomiques, de primes inimaginables, de voyages sans restriction dans toute la galaxie. Une cour d'annonceurs se battent pour qu'on utilise leurs équipements coûteux et sophistiqués. En somme, un joueur de la Ligue est considéré comme un dieu. La Ligue représente le rêve de tout joueur humain. Là peuvent se côtoyer dans la même équipe un Colossien, un humain et un polype, sans différence ni racisme. Du moins en théorie.
Le Volx, c'est le baseball à Cuba.
En Cuba, el fútbol no es el deporte de multitudes. El béisbol es el deporte que todo el mundo sigue, pero el Volx es como un resumen de todo lo que pudiera ser un deporte. Un deporte de equipo, donde hay individualidades, un deporte que sigue el público y un deporte que permite a los buenos jugadores saltar por encima de su estatus social.
En fait, le football n'est pas forcément un sport de masse à Cuba, le baseball pas vraiment non plus. En fait, le Vox, là, ça serait une espèce de résumé de ce que seraient tous les sports, poussé un peu à l'extrême, avec cette capacité à mobiliser les foules, à être un peu universel, et surtout cette capacité à permettre cette ascension pour quitter l'île. Donc s'il y avait un tel sport à Cuba.
Dans ce sport, il y a une métaphore à l'intérieur de la métaphore plus globale du livre, c'est que c'est un sport d'équipe, mais finalement c'est chacun pour soi, une fois que le coup d'envoi est donné.
Toda la retórica del equipo campeón y de somos un equipo es abandonada en un momento determinado. O sea, cuando el fútbol es un deporte de equipo, pero quienes lo juegan son individuos y quienes lo juegan mejor son estrellas. Que sont contratadas, no se contrata el equipo, se contrata el jugador.
En fait, le Vox, effectivement, c'est une espèce de métaphore, c'est la métaphore du sport d'équipe, où finalement, un sport d'équipe, c'est quoi? C'est des individus qui jouent. Par exemple, au football, c'est effectivement une équipe, mais c'est une équipe qui est composée de stars. Et la personne qu'on embauche, ce qu'on paye, c'est pas l'équipe, c'est la star. Donc finalement, c'est une équipe où c'est un ensemble d'individus qui jouent pour eux.
Sauf qu'à la fin de ce chapitre, justement, on va en choisir un qui, en l'occurrence, est le narrateur, qui va justement être recruté. Et le point commun entre tous les personnages qu'on voit à un moment donné, c'est qu'ils doivent faire le choix entre leur intérêt personnel et l'intérêt général.
Como todos los personajes del libro, tiene que escoger entre su interés propio y el interés más general.
Sí, aunque el hecho de que digas escoger es un poco exagerado. Como escribo en el libro, él no lo duda jamás. En realidad, él nunca pensó que eligieran al equipo completo. Él siempre, su sueño fue, jugaré bien, aunque pierda, para que me contraten a mí y el resto del equipo a la mierda.
Alors en fait, non, enfin, on parle d'un choix, mais non, c'est pas vraiment un choix, parce que lui, dès le début, sa position, elle est claire. C'est-à-dire qu'il a eu la chance d'arriver jusque-là, de jouer dans cette équipe, et sa seule idée, c'est « je dois jouer le mieux possible, de façon à ce qu'on me remarque, et si on me choisit, eh ben, que l'équipe aille au diable ». Voilà, donc dès le départ, il sait exactement ce qu'il va faire. Donc c'est pas vraiment un choix.
Bon, j'ai encore plein de questions à poser à Yos, mais normalement c'est fini. Je vais en poser une dernière, parce qu'il y a quand même un chapitre qui est extrêmement important. La première partie, les premiers chapitres, ce sont des personnages dont on sait qu'ils peuvent se sortir vraiment de la situation dans laquelle ils sont. Et puis plus on avance, plus il y a du désespoir qui arrive dans les situations des personnages. Et on en arrive en particulier au chapitre qui met en scène Moy. Et Moy, c'est le bot people, c'est celui qui va fuir finalement. Et qui va fuir en toute connaissance du danger que représente ce type de fuite.
Bueno, el éxito, entre comillas, que tiene Moy al tratar de escapar del país, uno, de alguna manera, creo que todo el que lee se da cuenta que Moy está marcado para ser el buen perdedor. O sea, que nunca podrá tener éxito, es demasiado blando e idealista para lograr el éxito en este lugar, pero de alguna manera con su sacrificio él logra su propósito.
En fait, Moy, finalement, c'est un petit peu une métaphore du bon perdant, parce que bien qu'il ait entre guillemets réussi, qu'il puisse réussir à partir, on sait très bien qu'il va perdre et qu'il n'y arrivera pas, et finalement à la fin, au dénouement, d'une certaine manière, est réussi.
Bon, vraiment la dernière question, parce qu'en plus, ce sera un sujet que vous allez réaborder ce week-end dans un autre café littéraire. Est-ce qu'il faut croire à une situation qui s'améliore, qui s'adoucit à Cuba aujourd'hui?
Bueno,
comme on nous dit, parce que c'est ce qu'on entend.
Los tiempos más duros del periodo especial, afortunadamente, han ido quedando atrás. Desde el punto de vista económico estamos mejor. Políticamente creo que incluso estamos peor.
Effectivement, si on regarde du point de vue économique, ce qu'on a appelé à Cuba la période spéciale donc est terminée, et d'un point de vue économique, ça va un peu mieux. Par contre, si vraiment on devait se placer sur un plan politique, je dirais que c'est plutôt pire.
Merci beaucoup. Et moi, je vous encourage vraiment à découvrir l'univers de Yos. Alors, vous l'aurez compris, c'est deux livres très contrastés. Il y en a un, je pense, où vous prendrez énormément de plaisir en vous amusant. L'autre, ça va vous faire vraiment beaucoup plus réfléchir. Mais en tout cas, ça va vous faire regarder la situation cubaine, même si, encore une fois, rappelons-le, hein, on est dans de la fiction, on est bien d'accord. Mais voilà, ça va vous faire vraiment, je pense, un peu mieux comprendre ce que vivent les Cubains. Et le fait même, je crois, que Yos... Et choisi de continuer à vivre à Cuba permet vraiment de vivre ça de l'intérieur. Merci beaucoup.